Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Dans notre épisode précédent, on a pris le temps de causer d'une de nos compagnes récurrentes, et pour certains d'entre nous essentielle dans cette période de confinement, la télévision. Télévision qui, là je vais dire une énorme évidence, mais bon, vous avez l'habitude, essaye souvent d'être le reflet de notre société. Je dis essaye parce que parfois ça marche et parfois non. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on en parle dans ce podcast. On s'est déjà intéressé au pouvoir de représentation du petit écran, notamment en causant des cas particuliers de certaines séries comme Plus belle la vie ou comme Scam. Cette série transmédia destinée aux ados et aux jeunes adultes, saison après saison, bouscule les lignes des modèles traditionnels. Ça a par exemple été le cas lors de sa 5e saison, qui a été diffusée au tout début de cette année 2020, et où est abordée de façon très réaliste, loin des clichés habituels, la question de la surdité. Nous, ça nous a donné envie de nous pencher sur le cas très particulier de celles et ceux qui sont à la jonction du monde des sourds et de celui des entendants, les interprètes en langue des signes française, qu'on appelle aussi la LSF, interprètes à qui on avait plein de questions à poser et qui sont donc au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
L'objectif de notre association est de développer la communauté sourde. Parce que dans notre communauté, chacun a son histoire, on est tous différents. Il y en a qui sont nés sourds, il y en a qui sont devenus sourds. Ce qui est important, c'est qu'on partage nos expériences pour mieux se comprendre, même entre nous. Alors ce soir, vous êtes là pour vous exprimer, pour raconter qui vous êtes, vos vies. Voilà, il y a un volontaire pour commencer ? Jusqu'à présent, j'ai fait en sorte que ma surdité soit invisible. Avec les entendants, souvent au bar, le soir, on bavarde. Et parfois, je leur dis « Pardon, j'ai pas compris, vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?» Et on me dit « Ah, mais c'est pas important. » La communauté entendante, elle parle, et moi, je suis complètement exclue.
C'est compliqué. T'es pas pas à tout écrire les coups.
J'en ai eu marre, donc j'ai commencé à arrêter de parler et à apprendre la langue des signes. Je me sens mieux.
Et elles sont donc deux interprètes diplômées à avoir gentiment accepté de répondre à nos interrogations. La première d'entre elles, c'est Laurie Hazan. Elle est diplômée de Paris 8 et je lui ai demandé, histoire de tout de suite poser les bases, c'est quoi la LSF ?
Alors, la langue des signes française, c'est un moyen de communication pour les personnes sourdes signantes, parce qu'il y a des personnes sourdes qui utilisent d'autres stratégies de communication. Donc, c'est une langue visio-gestuelle. C'est pas une langue qui est calquée sur le français, c'est une langue propre, qui fait appel à des images, qui a sa culture propre. Il faut savoir que l'interprète LSF français est amené à traduire dans 4 situations. Donc, un format conférence, donc tu vois bien ce que ça peut donner. C'est souvent là que les entendants découvrent les interprètes en langue des signes. C'est quand c'est à côté d'un politique ou à une conférence. Ensuite, en format liaison. La liaison, c'est quand tu es dans un milieu, par exemple un milieu médical. C'est quand il y a une personne entendante et une personne sourde qui doivent communiquer, par exemple un rendez-vous psy ou un entretien individuel dans une entreprise. Ensuite, tu peux interpréter en situation de réunion, c'est-à-dire que c'est une réunion d'équipe pédagogique, par exemple, et il y a un professeur sourd qui est intégré à cette réunion. Donc, le professeur sourd, il doit communiquer avec le reste de l'équipe, et inversement, on n'est pas là. Enfin, l'interprète, faut pas. Il y a des gens qui peuvent croire que c'est un peu le côté sauveur de l'univers, je viens pour que tout se passe bien pour la personne sourde. Ben non, on est aussi là pour les personnes entendantes quand c'est la personne sourde qui veut s'exprimer. Et enfin, ça, c'est un peu nouveau, entre guillemets, l'interprète en visio. Je crois que c'est depuis 2015. Les personnes sourdes ont accès au téléphone via une taxe auprès des opérateurs mobiles. L'État a fait un appel d'offres et a demandé à plusieurs prestataires proposer une solution de plateforme avec des interprètes. C'est-à-dire que tu as des interprètes qui sont dans des box, qui ont devant chaque personne, il y a un ordinateur avec une webcam. La personne sourde a une petite appli. Donc, l'entreprise qui a remporté le marché s'appelle Roger Voice. Donc, les interprètes de chez Roger Voice sont devant leur ordinateur. Sur son téléphone, l'usager sourd à une application Roger Voice. Et puis, il clique « J'ai un coup de fil à passer ». Ça atterrit sur l'ordinateur de l'interprète qui a un micro-casque et dit « Bonjour, je vous appelle de la part d'une personne sourde, je suis interprète en langue des signes ». Et la communication passe. Alors, souvent, je dis une interprète parce que c'est un métier qui est extrêmement féminisé. Là, c'est vraiment mon point de vue. Je pense que c'est un peu, contrairement aux interprètes en langue vocale, c'est un peu relié au social, interprète en langue des signes. On se dit, oh, les pauvres petits sourds qui ne peuvent pas entendre, enfin, je ne sais pas trop. Le fait que ce soit un métier féminisé, ça amène il y a une intersection de choses qui arrivent sur le métier d'interprète. Déjà, on représente parfois, quand on ne représente pas des entendants, on représente des personnes qui sont déjà minorisées parce qu'handicapées. Ben, ce terme peut être problématique pour les sourds. Ensuite, on ne sait pas très bien ce qu'elles font avec les mains. Pour les télés, par exemple, ce n'est pas un contenu qui est vérifiable tout le temps, donc on s'en méfie un peu. Nous, on a des devoirs. Un interprète diplômé a été formé à respecter une confidentialité professionnelle, une déonto qui implique aussi de ne pas rajouter de contenu dans les propos, à ne pas donner son avis. Enfin, c'est ça, rester fidèle, une impartialité, une fidélité dans le propos. Ça arrive à des interprètes, donc on est femmes 90% facile, ça nous arrive d'être dans des milieux de mecs et c'est marrant de faire dire des blagues misogynes dans la bouche de la fille qui est là et qui est là juste pour dire tout ce qu'on dit. Du coup, c'est assez intéressant, je trouve, d'être entre les deux mondes aussi, ça nous invite à être témoin de certaines discriminations. Enfin, je pense qu'il y a un lien, enfin, on peut facilement devenir militant. On peut facilement devenir militante en étant interprète parce que finalement on est témoin de situations de communication où il y a toujours un dominant, un dominé, et ça va souvent dans le même sens quand la personne en entreprise par exemple n'a pas accès à la communication globale de la boîte et puis un jour il y a l'interprète et il faut qu'elle rattrape. Enfin, on est souvent témoin de quelque chose, d'un truc social qui fait que ça te donne envie de lutter avec.
Justement, je me posais la question de savoir s'il y avait une... Tu y as un petit peu répondu déjà. S'il y avait une pression dans le fait de devoir être la jonction, justement, entre deux mondes. Deux mondes qui, pour le coup, ne communiquent vraiment pas du tout, parce que les entendants et les sourds profonds, n'ont quasi aucun moyen de communication et de se... Enfin, vivre vraiment en parallèle. Et c'est vous qui faites le lien. Est-ce que, justement, c'est une pression importante?
Bien sûr, alors déjà, il y a la pression de faire passer un message. Nous, on est là pour transmettre un message le plus fidèlement possible. Donc, en tout cas, moi, je pense que tout le monde a cette pression de transmettre ce qui a été dit, ne serait-ce que de bien le comprendre en recevant le message. Des fois, ça arrive, il y a des gens, voire des politiques souvent, qui parlent et pendant qu'on est en train d'écouter, on essaye de chercher le contenu à transmettre. Donc, il y a cette pression-là. Il y a aussi une pression des fois, il y a des situations de communication entre deux personnes qui entendent, qui se passent mal. Enfin, il y a des situations de malentendus, même quand on parle la même langue. Donc, des fois, il y a des situations de malentendus entre un sourd et un entendant. Et alors, à titre personnel, j'ai toujours la pression de me dire, oh là là, ils se comprennent pas, mais ils vont croire que c'est de la faute de mon interprétation. Ça arrive aussi que, je sais pas, je prends un exemple, le médecin dit quelque chose qui est difficilement compréhensible, on le traduit. Nous, les interprètes, on est là pour traduire avec la forme qui est donnée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour simplifier le message. Si la personne sourde ne comprend pas et dit « je ne comprends pas », la personne entendante simplifie. Ça arrive des fois que la personne dise quelque chose difficilement compréhensible et la personne sourde en face, ou l'inverse, dise « mais attendez, non mais l'interprète, là, ça ne va pas, je ne comprends pas ». Et ça, c'est quand même une pression aussi, de se dire « bah... » Et puis, j'imagine qu'il y a des situations où, une stratégie d'interprétation, on biaise un peu la chose. Et enfin, oui, il y a toujours cette pression d'être l'outil par lequel la communication passe. Je pense qu'il y a une évolution dans la visibilité. Il y a aussi une ouverture d'esprit. Alors là, je suis pas la spécialiste de l'histoire, mais bon, depuis qu'il y a des sourds, ils communiquent avec des gestes, pas forcément une langue structurée, tout ça, mais avec des gestes. Donc, de tout temps, il y a eu la langue des signes. Et dans les instituts pour jeunes sourds, ça communiquait en langue des signes. Après, il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc, ce n'était pas une belle langue harmonisée sur toute la France. Hein. Des fois, il y avait une famille qui avait sa langue à elle, quoi. Et en 1880, il y a eu un congrès à Milan qui avait pour but de statuer sur le mode d'éducation des sourds en institut et à l'école. Parce qu'on se disait, bah déjà, on ne savait pas ce qui se disait entre eux. Et en plus, y a des sourds qui savent parler. Du coup, pourquoi on ne les ferait pas parler tous? Et donc, en 1880, au congrès de Milan, dans des circonstances, je te laisserai regarder la page Wikipédia, a été décidé que c'est fini la langue des signes. Donc, il y a des pays qui... La plupart des pays ont dit « Ok, on va faire parler les sourds ». Gros exemple, les États-Unis ont dit « Non, non, les États-Unis ont dit « Non, non, nous, on reste avec la langue des signes ». Du coup, tous les sachants sont partis aux États-Unis. Et la langue là-bas a continué à évoluer, alors qu'en France... C'était pas légiféré, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une loi qui interdisait avec une peine pour les gens qui signaient à l'école. Néanmoins, c'était un accord, c'était des conventions en fait entre les établissements scolaires. Donc il y a eu 100 ans de silence, on dit. La langue des signes a été interdite de 1880 à 1980. Dans les années 80-90, il y a des Américains sourds, un Américain sourd qui est venu à Paris en disant « Mais ils sont où les sourds ?» Et donc c'était ils sont là, mais on peut pas trop signer. Comment ça, vous pouvez pas signer? Mais du coup, vous pouvez pas vous exprimer. Non, mais attendez, faut se rebeller. Et c'est là que les sourds ont commencé à militer, revendiquer leurs droits, et le métier d'interprète est né. Donc le métier d'interprète, c'est un métier qui est jeune, quoi, qui a 40 ans, qui est encore. Enfin, je trouve que même dans la formation, tu vois que c'est en construction. Par exemple, tout ce qui est adaptation au fait que maintenant il y a de plus en plus de travailleurs indépendants ou de choses comme ça, ou même la visio, tu vois, c'est toujours en perpétuelle évolution, quoi. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive dedans.
Ça change tout le temps et forcément, avec la situation inédite qu'est ce confinement, ça change beaucoup en ce moment. Avec les prises de parole récurrentes du gouvernement, on voit beaucoup les interprètes en langue des signes à la télévision, ce qui entraîne pas mal de moqueries sur les réseaux sociaux ou dans des émissions de divertissement où on aime bien se foutre un peu des gestes et des mimiques des interprètes. Sauf que la situation prête quand même assez peu à rire, à tel point que la FNSF, la Fédération Nationale des Sourds de France, a signé il y a peu un communiqué assez ferme sur la nécessité de respecter les interprètes qui sont essentiels en ce moment. J'en ai discuté avec une autre interprète diplômée, notre deuxième invitée donc, qui s'appelle Eve Caristan.
En fait, si tu préfères, là en ce moment, les interprètes en langue des signes, et même avant le confinement, le seul endroit où on était assez visible, quand moi je dis « bonjour, je suis interprète en langue des signes », les gens me demandent « ah oui, la dame dans le petit carré à la télé ». Donc c'est le seul endroit où les gens ont déjà vu en fait, de la langue des signes. Et aujourd'hui, alors que, comme je te disais, il n'y a pas d'accès à l'information, et donc les personnes sourdes sont vraiment isolées, si en plus le peu de choses qu'on arrive à rendre accessible derrière s'est tourné en dérision par une méconnaissance de la langue, en fait la langue des signes, quand on se moque de la langue des signes en imitant des gestes, souvent en plus avec une connotation sexuelle, c'est comme si tu te moquais d'un accent d'une autre langue, en fait c'est vraiment un équivalent. Et du coup aujourd'hui, alors que les interprètes sont dans une obligation de mobilisation parce qu'on ne peut pas laisser toute une communauté de langues sans information, surtout avec une situation de crise sanitaire. Aujourd'hui, on n'aurait pas idée d'aller se moquer des personnes qui sont soignantes ou des personnes qui actuellement travaillent et font un travail... l'information, c'est vital en fait. Et nous, on se retrouve en plus à avoir... un, à gérer notre énergie sur notre métier, et en plus devoir rappeler aux gens qu'en fait non, là c'est pas drôle en fait. Et du coup on perd une grande énergie, et il y a un collectif qui s'appelle Les Mains Paillettes qui a du coup fait pas mal de vidéos sur ce qu'on appelle l'audisme. Et l'audisme en fait c'est une oppression de la norme entendante, puisque en fait c'est une norme auprès de la communauté sourde. Et du coup ça passe par ces moqueries, ça passe par une méconnaissance totale de la communauté sourde. Et en fait c'est on comprend pas, mais c'est violent en fait, parce que les personnes sourdes aujourd'hui, t'as un centre de relais téléphonique qui donne accès au téléphone aux personnes sourdes. Donc en fait t'as des interprètes qui sont en visio et qui passent les appels pour les personnes sourdes. Et en fait sur le numéro info coronavirus, c'est incroyable les questions que tu peux avoir. Tu peux avoir des questions, est-ce que je peux respirer l'air de l'extérieur? Est-ce que je peux sortir de mon domicile? T'es à ce stade de désinformation, et c'est pas que les personnes sourdes sont moins intelligentes. C'est juste qu'elles n'ont pas accès à l'information. Donc, en fait, elles ne peuvent faire que des suppositions, que des hypothèses. Et dans cette situation-là, franchement, c'est pas acceptable, en fait, aujourd'hui.
Oui, il y a une forme de double peine qui s'installe. Et c'est vrai qu'on a, nous, on en a pris la mesure uniquement en préparant et en fabriquant cet épisode. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la difficulté, de l'isolement qu'on ressentait toutes et tous. Mais il y a une couche supplémentaire, j'ai envie de dire, d'isolement qui se rajoute dès lors qu'on est sourd ou malentendant dans cette histoire où, justement, on est à distance les uns des autres et qu'on est un peu coupé des canaux de communication physique et qu'on ne repose que sur du numérique auquel, forcément, on a moins d'accès pour tout ce qui est audio et audible quand on est, dès lors qu'on est sourd ou malentendant.
Bah exactement, et en plus, ça, quand le confinement a eu lieu, les personnes sourdes, elles, comme d'habitude, ont été oubliées. Enfin, en général, de toute façon, les minorités sont oubliées, mais là, les personnes sourdes, c'est tout ce qui s'est fait à distance, c'est fait par le son. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des étudiants sourds à qui on envoyait des liens de systèmes de visioconférence pour assister à leurs cours, où l'enseignant a un micro et parle, et où il n'y a pas d'interprétation, où ça n'a pas été pensé du tout, et du coup les étudiants sourds se sont retrouvés sans avoir accès à leurs cours, et avec les écoles qui répondent « Ah oui, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres moyens, au pire on vous enverra les supports de cours », ça veut dire qu'en fait, eux déjà, ils sont lésés des explications, et que la situation n'a pas été du tout pensée, alors qu'on pourrait appeler les interprètes en visio, en fait. Et comme les budgets pour mettre en place l'interprétation dans les cours existent, il suffirait de rémunérer les interprètes et de leur demander de traduire, en fait, ces cours. Et ça va pareil sur tout ce qui est téléconsultation dans le domaine médical. Les plateformes de médecins, en fait, c'est pareil. Les médecins vont être même en visio, des fois, avec leurs patients. Mais dès lors que la personne est sourde, s'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'accessibilité. Et tu peux reporter ça surtout sur le travail, sur la santé, sur l'éducation. Et donc, les personnes sourdes, en fait, tellement invisibilisées que ça n'a même pas été pensé, imaginé, quoi que ce soit. Et ce n'est pas réglé aujourd'hui. Et on en est à 3 semaines de confinement.
Est-ce qu'il y a une difficulté, on en a parlé un peu avec Laurie, ça aussi, est-ce qu'il y a une difficulté dans le rôle de l'interprète, dans le sens où il y a une pression qui est celle d'être le porte-parole d'une communauté qui, de fait, a très peu accès à la parole et doit reposer sur d'autres qui sont entendants et qui peuvent communiquer à sa place?
Les interprètes en langue des signes, en fait, on est vraiment à l'intersection des deux communautés. C'est-à-dire qu'on est, on est des personnes entendantes, qui font partie de la norme, mais du fait que la langue des signes, que la société n'est pas accessible en langue des signes, on se retrouve à travailler auprès de la communauté sourde dont on connaît les enjeux, les tenants et les aboutissants, ce qui fait que vraiment on est toujours dans cette difficulté, en plus de ne pas, dans notre métier on est censé être neutre, ou plutôt moi je préfère le terme d'impartial et ne pas donner notre avis sur la communication, mais on a des tendances à vouloir rattraper la norme en fait, et c'est vraiment difficile le positionnement dans notre métier. En plus de ça, quand on va rencontrer des personnes entendantes, c'est vrai que les personnes ont tendance à nous poser des questions à nous sur ce qui se passe dans la communauté sourde, et en fait encore une fois à ne pas écouter les personnes sourdes elles-mêmes, et c'est toujours compliqué entre faire de la pédagogie et savoir que comme il n'y a pas accès à cette communauté sourde, c'est aussi notre rôle de le faire, mais en même temps de se dire, en le faisant, on silencie encore les personnes sourdes. Et pour moi, ça, c'est vraiment difficile à négocier en fait, dans mon quotidien, d'être à la fois porte-parole, mais en fait, du coup, de prendre la parole des personnes sourdes encore une fois.
Malgré tout, il y a un aspect qui est frappant, c'est que dans la démarche même de choisir d'être interprète en langue des signes français quand on est entendant ou entendante, il y a une démarche militante derrière.
Ah, mais mon métier est militant. En fait, je ne peux pas dissocier le militantisme de mon métier. C'est impossible, puisqu'on travaille dans une communauté minorée et minoritaire, que au quotidien, en fait, c'est des personnes qui font face à tellement d'obstacles que mon métier est militant, et que même dans la reconnaissance même de mon métier, en fait, il n'y a pas de reconnaissance du métier d'interprète, ce qui fait qu'on n'a pas de syndicat aujourd'hui. On n'a pas de reconnaissance même dans la loi. La loi est à la loi du 11 février 2005 qui est censée assurer l'égalité des chances et la participation à la vie citoyenne, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accessibilité aux services publics, il n'y a pas d'accessibilité quand tu veux aller porter plainte, il n'y a pas d'accessibilité quand tu veux aller te faire soigner, il n'y a pas d'accessibilité quand tu es dans tes cours. Et donc du coup, de fait, mon métier est militant, et en plus de ça, en n'ayant pas de système de protection, ce qui fait que en fait aujourd'hui, n'importe qui peut se dire interprète, alors que la connaissance de deux langues ne fait pas d'une personne un interprète en langue des signes. Il y a tellement d'enjeux dans ce métier. Et on ne traduit pas que des mots, en fait, on traduit du sens, on prend en charge des discours. Il y a tellement d'enjeux qu'aujourd'hui, là, il y a 48 heures, à Châlons-en-Champagne, le maire a fait traduire son discours par une personne qui connaît la langue des signes parce que ses parents sont sourds. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que je pense que même quelqu'un qui ne connaît pas le métier de l'interprétation, il suffit de regarder, le maire parle et la personne ne bouge pas les mains, en fait, ne traduit pas des pans de discours. Et ce qui est traduit n'a aucun sens. C'est-à-dire que les personnes sourdes, si elles regardent cette vidéo, ne comprennent rien, en sachant que dans cette vidéo, il y a des consignes de sécurité, il y a des rappels, des gestes barrières, etc. Ce qui fait qu'encore une fois, ben là, les sourds, en fait, on ne les considère même pas. Et les personnes entendantes, en fait, si on regarde ce qui s'est fait, en fait, le maire, il est content, il a mis une vidéo avec quelqu'un qui bouge les mains, sans savoir, en fait, que c'est, enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Et c'est dramatique. Et donc, du coup, oui, forcément, mon métier, il est... Je peux pas ne pas être militante. Et c'est toujours une bataille, parce que, en plus, comme on travaille avec un public dit handicapé, même si les personnes sourdes ne se reconnaissent pas du tout dans ce terme, c'est toujours vu comme si on n'était pas des professionnels de la communication, mais des aidants, alors qu'on n'a pas du tout un travail d'aidant, en fait. Moi, je ne vis pas avec les personnes sourdes au quotidien. En fait, moi, je viens juste quand les personnes sourdes doivent rencontrer une personne entendante et que du coup, on doit passer par moi pour faire passer le discours. Mais en fait, l'interprète en langue des signes, si on réfléchit vraiment, il n'est pas là pour les personnes sourdes. Il est là aussi pour les personnes entendantes, parce qu'une personne entendante, si elle rencontre une personne sourde et que la personne sourde s'exprime en langue des signes, elle est incapable de le comprendre. Et donc, en fait, le handicap, il est partagé. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment un handicap, c'est juste une barrière de langue, comme quand on va rencontrer quelqu'un dont on ne parle pas la langue, en fait. La seule différence, c'est que ce sont des personnes qui n'entendent pas et que du coup, il y a tout le spectre du handicap qui rentre en jeu et les clichés qui sont autour, quoi.
C'est quoi les leviers d'amélioration qui existeraient ou qui pourraient exister pour améliorer justement l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes et aussi faciliter le travail des interprètes en langue des signes française ?
La première chose, c'est que si la langue des signes était reconnue déjà comme langue officielle du pays, ça pourrait avoir des conséquences en fait sur sa diffusion et l'obligation qu'elle soit que dans chaque service public il y ait au moins des personnes signantes qui puissent communiquer avec les personnes sourdes. Ce serait aussi avoir des sensibilisations peut-être dans tous les corps de métier à si vous rencontrez une personne sourde avec un ou une interprète en langue des signes, voilà comment ça se passe, parce qu'on a aussi cette problématique en fait quand moi je vais traduire par exemple dans un hôpital pour un rendez-vous, bien souvent je dois négocier avec les personnes soignantes pour rentrer dans la salle, parce qu'on parle de secret professionnel alors que moi je suis soumis au secret professionnel, que de toute façon si je ne suis pas là, la personne sourde ne comprendra pas ce qui est dit. Et à côté de ça, si notre métier était reconnu et qu'il y avait un ordre comme il existe un ordre des médecins ou un ordre des avocats, ça ferait que on considérait vraiment le fait que je sois diplômée comme important et comme le fait que je connais les enjeux de mon métier. Parce que, encore une fois, l'interprétation, c'est pas juste prendre des mots. Enfin, je suis pas un logiciel de traduction automatique, en fait. Là, on parle de communication entre deux personnes. C'est pas de l'écrit. Il y a des enjeux. Il y a même, je traduis le silence aussi, en fait. Quand quelqu'un ne répond pas, ne dit pas quelque chose, ça fait du sens, en fait. Et donc, il y a tellement d'enjeux que s'il y avait une reconnaissance de notre métier et de la langue des signes, concrètement, c'est évident que ça changerait les choses.
Alors, est-ce que cette reconnaissance sera l'un des acquis issus de la crise actuelle, ou alors est-ce que là aussi, la communauté sourde se retrouvera tout en bas de la liste des priorités ? On n'en est évidemment pas encore là, mais ce sera l'occasion de refaire un point à la sortie du confinement. Merci à Laurie Hazan et à Eve Caristan pour leurs réponses. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de Binge Audio que vous retrouvez tous les soirs, du lundi au vendredi, aux alentours de 18h, avec ou sans confinement. On est là, on ne bouge pas, grâce notamment à Lauren Bess qui prépare ses épisodes, à Mathieu Thévenon qui les réalise et à toute l'équipe de Binge Audio qui participe à distance à leur construction. Pour nous retrouver, abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée de podcast. Venez nous parler sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Continuez à bien vous laver les mains, à respecter les gestes barrières, à rester chez vous si vous le pouvez. Et à mardi pour un nouvel épisode. Bah ouais, lundi, c'est Pâques.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.